Les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, prirent chacun son encensoir, y mirent du feu, déposèrent dessus de l'encens et apportèrent devant Dieu un feu étranger qu'il ne leur avait pas commandé. Un feu sortit de devant Dieu et les dévora, et ils moururent devant Dieu. Nous nous trouvons à un moment solennel de l'histoire d'Israël dans le désert, celui de l'inauguration du Mishkan, le tabernacle. Le peuple vient de voir la gloire divine se manifester. Un feu venu d'en haut a consumé l'Holocauste. Tous sont tombés sur leur face dans la joie. Et soudain, deux des fils d'Aaron meurent, consumés par ce même feu divin. Moshe dit alors à Aaron, « C'est là ce qu'avait déclaré l'Éternel. Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. » Et le texte ajoute simplement, « Et Aaron garda le silence. » La Torah raconte tout cela avec une neutralité qui ne peut que susciter l'interrogation. Pas de jugement explicite sur l'acte de Nadav et Avihu. Pas de clé pour décrypter le silence d'Aaron. Les propos de Moshe eux-mêmes peuvent se lire de multiples façons. L'absence de tout jugement au sein de la narration est extrêmement déconcertante. Comment recevoir ce récit? Comment juger l'initiative des deux frères? Comment comprendre la réaction divine? Si l'on collecte les occurrences dans lesquelles le Talmud évoque l'épisode, on se retrouve confronté à une ambivalence qui semble à sa façon redoubler la neutralité du récit biblique. En Sanhédrin 52a, on trouve ce qui semble constituer une condamnation sans appel de l'action des deux frères. Je cite « Moshe et Aaron marchaient en tête sur le chemin. Nadav et Avihu marchaient derrière eux et tout Israël derrière eux. Nadav dit à Avihu « Quand donc mourront ces vieillards ? Et toi et moi dirigerons-nous la génération ?» Le Saint béni soit-il leur dit, « Nous verrons bien qui enterrera qui. » En Zévachim 115b, au contraire, les sages semblent attribuer un caractère foncièrement positif à l'initiative des deux frères, ainsi qu'au silence d'Aaron. Après avoir cité le verset « Je me rendrai là-bas présent pour les enfants d'Israël et je serai sanctifié par ma gloire, birvodi », ils précisent en effet, « Ne lis pas par ma gloire, birvodi », mais par mes glorifiés, bimchou badai. Cette parole, ajoute-t-il, le Saint béni soit-il l'adressa à Moshe, mais ils n'en comprirent pas le sens jusqu'à la mort des fils d'Aaron. Lorsque les fils d'Aaron moururent, explique-t-il, Moshe lui dit, mon frère, tes fils ne sont morts que pour sanctifier le nom du Saint béni soit-il. Quand Aaron comprit que ses fils avaient été distingués du reste du monde, il se tut et reçut une récompense. Quant à la troisième occurrence, elle demeure énigmatique. Dans Hérouvin 63a, nous sont rapportés les propos de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit « Les fils d'Aaron ne sont morts qu'après avoir enseigné une loi en présence de Moshe leur maître. » Quel est le verset qu'il interprète ? « Les fils d'Aaron le prêtre mirent du feu sur l'autel. » Ils dirent « Bien que le feu descende du ciel, c'est une mitzvah d'apporter aussi un feu d'origine humaine. » Nombre de Midrashim, quant à eux, semblent trancher sans ambiguïté. Midrash Rabba et Tanhuma sur Acharemot dressent la liste de toutes les raisons qui conduisent à interpréter la mort des deux frères comme un châtiment divin. Ils sont morts, nous dit le Midrash, parce qu'ils ont enseigné une loi en présence de leur maître, parce qu'ils sont entrés dans le Saint des Saints. Je reprends. Ils sont morts, nous dit le Midrash, parce qu'ils ont enseigné une loi en présence de leur maître, parce qu'ils sont entrés dans le Saint des Saints, parce qu'ils ont offert un sacrifice non ordonné par Dieu, parce qu'ils ont pénétré dans le temple sans se laver les mains et les pieds, parce qu'ils n'avaient ni enfant ni femme. Et le Midrash de les charger d'autres fautes encore. Nous, lecteurs et lectrices d'aujourd'hui, ne pouvons être que convaincus de la négativité de l'attitude de Nadav et Avihu, en raison des textes que nous venons de citer, mais aussi à cause de la tradition herméneutique dans laquelle s'inscrivent la plupart des commentateurs médiévaux qui jugent les deux frères avec une grande sévérité. À cause également du jugement que prononce, plus proche de nous, le Rav Dessler, qui recherche le dénominateur commun à tous les reproches formulés par le Midrash pour mettre en évidence une accusation qui les résume tous, avoir manqué de modestie. Et pourtant, si nous revenons tout simplement aux commentaires de Rashi, nos certitudes s'effondrent brutalement. Rashi, en effet, prend la décision de ne retenir aucun des jugements négatifs du Midrash, parmi lesquels il lui suffisait pourtant de piocher. Au lieu de cela, Après avoir repris, mais sans émettre le moindre jugement moral, l'idée que Nadav et Aviou avaient bu du vin, il choisit de privilégier exclusivement la lecture positive que nous avons rencontrée dans Evachim. Nadav et Aviou sont « mes glorifiés », ceux qui sont honorés par Dieu, ceux par qui le tabernacle devait être sanctifié, plus grand même que Moshe et Aaron. Quant au silence de ce dernier, Rachi y voit un acte méritoire qui lui vaut une récompense. La parole divine lui sera adressée à lui seul. Lecture bouleversante. Si l'on s'en tient à Rachi, l'épisode de Nadav et Aviou n'est nullement entaché de négativité, nullement engagé dans la dialectique faute-châtiment que nous sommes portés à plaquer sur le récit biblique. S'il n'y a pas de transgression, pas de faute et pas de châtiment, comment dès lors lire l'épisode? Que sommes-nous censés en retirer? Face à ce questionnement, ce sont certains textes chassidiques qui peuvent nous indiquer un autre chemin. Il est tout d'abord important de restituer l'épisode dans son contexte. Nous sommes au moment de l'inauguration du Mishkan, le tabernacle, lieu de la résidence du divin parmi les hommes. Au moment où le lien entre le peuple et Dieu va se formaliser, se ritualiser. C'est le moment où la pulsion collective d'appel vers le divin, dont on a vu le danger qu'elle pouvait constituer quand elle n'était pas strictement encadrée, va être codifiée et réglementée. On a à l'esprit l'épisode du veau d'or, et on peut interpréter la mise en place du cadre établi par le Mishkan et la Avoda, le service, comme une volonté de canaliser l'élan collectif vers le divin au moyen d'une codification et d'une formalisation extrêmement strictes. C'est donc le moment où les prêtres vont devenir les agents officiels, les médiateurs du rapport entre le peuple et Dieu. Si cette institutionnalisation est nécessaire, parce qu'elle empêche les dérives vers lesquelles peut facilement mener l'extase collective non jugulée, elle s'accompagne inévitablement d'une perte. Perte d'une certaine intensité, d'une spontanéité, d'un rapport immédiat entre l'homme et Dieu. Dans cette perspective, le geste de Nadav et Aviou relève peut-être de la volonté de donner sa place à cette relation intense, presque pulsionnelle. Et ce n'est pas un hasard si c'est justement chez certains auteurs chassidiques, parmi les plus audacieux et les plus surprenants, que cette piste est creusée et qu'est explorée à la fois la nécessité impérieuse du geste de Nadav et Aviou et la profonde conflictualité qui se trouve en son cœur. Les penseurs aux réflexions desquelles nous allons nous confronter ont en commun une approche novatrice de l'expérience religieuse, en ceci que ce qu'ils scrutent et interrogent inlassablement, c'est le fort intérieur, le sujet intimement saisi dans son authenticité. En ces lieux, depuis ces maisons d'études, Nadav et Aviou seront perçus à la lumière de leur propre vérité. Rabbi Mordechai Yosef Leiner d'Ischwitze fonda sa propre école de pensée. Dans son livre « Mea Shiloach », la terminologie laurianique est réinvestie pour penser la relation entre l'homme et Dieu en termes de dévoilement progressif. Plus l'homme se rapproche de Dieu, plus il accède à une lumière divine dépourvue de vêtements, c'est-à-dire sans médiation, sans clôture normative ni interdit. Cette proximité extrême n'est pas décrite comme transgressive en elle-même. Elle correspond à un état où tout acte humain apparaît immédiatement comme orienté vers Dieu. Mais précisément parce qu'il n'y a plus de limite ni de cadre, il s'agit d'une zone intrinsèquement dangereuse. La disparition des médiations entraîne également celle de la protection. C'est dans ce cadre que le Mea Shiloach relie l'épisode de Nadav et Aviou et leur offrande de l'encens comme paradigmatique. L'encens relève de la dimension du secret, du sod, c'est-à-dire d'un espace d'intensité maximale, non médiatisé, qui ne peut être abordé ni par le calcul, ni par l'intelligence discursive, mais qui expose celui qui s'y engage à un risque vital. Pour rendre ce danger intelligible, le Mea Shiloach renvoie à l'épisode talmudique évoqué en Kragiga 14b, des quatre sages qui sont entrés dans le Pardès, ce jardin protégé et dangereux de la connaissance intime, de la proximité périlleuse avec le divin. Quatre sages, dont un seul, Rabbi Akiva, entra et sortit en paix. Nadav et Aviou apparaissent alors comme ceux qui ont voulu s'approcher de Dieu jusqu'à ce point extrême, cherchant à saisir la clarté absolue du divin. L'expression biblique selon laquelle ils avaient offert un feu qui ne leur avait pas été ordonné n'est dès lors pas interprétée comme une désobéissance formelle. Il s'agit bel et bien de l'indice d'un geste qui excède l'ordre, précisément parce qu'il est porté par une intensité intérieure brûlante. Leur amour de Dieu est décrit comme une force qui consume, au point de les conduire à un don total de soi. C'est ici que la parole de Rabbi Eliezer, restée énigmatique, prend tout son sens. Selon lui, Nadav et Aviou se fondaient sur le principe selon lequel bien que le feu descende du ciel, la mitzvah d'apporter le feu sur l'autel incombe à l'homme. L'initiative humaine n'est pas annulée par l'intervention divine. Elle s'impose au contraire comme une de ses conditions. Nadav et Avihu affirment ainsi la nécessité du feu humain et portent cette initiative jusqu'à un point où elle finit par les consumer. La mort de Nadav et Avihu est ainsi relue par le Méach Shiloach comme de la Messirut Nefesh, un don de soi radical, et non comme la sanction d'une faute morale. Toutefois, il convient de préciser que le texte ne propose jamais ce geste comme un modèle. Il introduit au contraire une tension décisive. Ce qui peut être authentique au niveau de l'individu devient potentiellement destructeur lorsqu'il prétend valoir pour le collectif. L'intensité religieuse, lorsqu'elle n'est pas régulée par des formes, des limites et des cadres, peut consumer ce qui la porte et mettre en péril la possibilité même d'un service divin partagé. Cette notion de Messirut Nefesh, de don total de soi, habite aussi le Tiferet Shlomo, ouvrage qui recueille les enseignements de Rabbi Shlomo de Radomsk, contemporain du Méach Shiloach. Mais le regard s'est décentré et tente de comprendre en quoi le geste des deux frères constitue un moment fondateur pour le peuple d'Israël tout entier. Rabbi Shlomo de Radomsk affirme que Nadav et Avihu ont donné leur vie avant même que le service sacrificiel du tabernacle ne commence véritablement. Leur mort serait alors une condition préalable à toute l'économie des sacrifices. Nadav et Avihu, par leur don de soi, insufflent un mouvement ascendant qui permettra ensuite au sacrifice de s'élever vers Dieu. Le culte n'est donc pas conçu comme une attitude passive ou simplement réceptrice. Il suppose un élan humain premier, sans lequel la ritualité aurait risqué de se réduire à une mécanique vide. C'est sous cet angle que le Tiferet Shlomo relie le verset qui ouvre le Lévitique de la manière la plus brute, la plus saisissante, la plus littérale qui soit. L'humain, lorsqu'il approchera d'entre vous un sacrifice à Dieu. Le Tiferet Shlomo, jouant de la signification de la racine karav, indiquant à la fois le rapprochement, la proximité et l'offrande d'un sacrifice, repère ici une pulsion sacrificielle concernant en premier lieu l'humain lui-même, l'humain désireux de se donner. Parmi les êtres humains, il en sera d'entre vous qui s'approcheront. S'approcher, c'est précisément le terme employé par Moshe lorsque, s'adressant à son frère Aaron, il donne son sens à la mort de Nadav et Avihu. « Je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent. » Il est des humains qui s'offrent en sacrifice, qui se font offrande. Le verset suivant du Lévitique précise, il est vrai, que dans le service sacerdotal, ce sont des animaux que l'on approchera en sacrifice. Reste la pulsion première qui habite tout sacrifice, qui habite jusqu'au verset qui ouvre les prescriptions du culte sacrificiel. Réminiscence de Nadav et Avihu qui persistera dans toute la Avoda, au tabernacle puis au temple. Et Rabbi Shlomo de Radomsk de décrire l'homme, c'est-à-dire l'âme humaine dans son mouvement vers Dieu, nécessairement antérieur, primordial. Ensuite seulement, l'animal offert sur l'autel. L'offrande animale n'est possible qu'après l'élévation initiale de l'âme humaine. Nadav et Avihu deviennent ainsi l'archétype de ce mouvement originaire. Leur mort n'est ni une anomalie à effacer, ni un échec pur et simple, mais une infrastructure spirituelle, une préparation inscrite à la racine même du service divin pour toutes les générations. Riche de cet enseignement sur la portée inaugurale du geste de Nadav et Avihu, sur son inscription spectrale dans l'histoire d'Israël, sur sa signification appelée à traverser le temps pour dire le lieu primordial et ultime de l'homme, Mishkan, là où se rencontre le divin, nous pouvons à présent interroger la signification de cet épisode, ici et maintenant, pour quiconque veut à son tour se rapprocher, se sanctifier. Le Bet Yaakov, qui contient les enseignements de Rabbi Yaakov Liner de Radzin, le fils du Méach Shiloach, déplace à nouveau la focale et nous permet sans doute de mieux situer les propos du Tiferet Shlomo. En apparence, l'acte de Nadav et Avihu semble n'avoir laissé aucune trace concrète. Or, affirme-t-il, c'est loin d'être le cas. Leur geste intervient au moment de l'achèvement du tabernacle, lorsque le culte devient régulier, collectif et codifié. L'intensité extrême de leur mouvement vers Dieu s'inscrit alors à la racine même de cette avoda stabilisée. Leur service, nous dit-il, a été établi à la racine de tous les services à venir. Même si cette intensité n'est plus perceptible ni imitable dans le culte quotidien, elle demeure comme une présence souterraine mais fondatrice. Le service ritualisé d'Israël reste habité à sa source par cet appel extatique originel vers le divin. Le Beit Yaakov suggère ainsi que la véritable place de Nadav et Aviou se situe au-delà de ce monde, dans un registre d'adhésion totale à Dieu qui ne peut être durablement habité par une communauté entière. Mais cette intensité continue d'imprégner spectralement la nouvelle réalité ritualisée, formalisée, adaptée au collectif. L'élan extatique demeure présent au cœur du service régulier, comme sa mémoire enfouie. Comment se référer à cet absolu où l'être finit par se consumer lorsqu'on réfléchit à la possibilité concrète, inscrite dans l'histoire d'une vie collective? À la génération suivante, le rabbi de guerre, dans son Sfat Emet, appréhende Nadav et Aviou comme figure qu'on peut certes admirer dans leur recherche de pureté, mais qu'il serait illusoire de vouloir imiter jusqu'au bout. Il met en évidence une articulation décisive entre intensité individuelle et nécessité collective, en situant l'épisode de Nadav et Aviou dans une chronologie spirituelle précise. Il rappelle qu'au moment du Sinaï, Israël atteint un niveau spirituel exceptionnel, comparable à celui des anges. L'homme ressent en lui-même la volonté divine. Ce niveau, cependant, n'est pas pérenne. Il est perdu après le péché du veau d'or, moment à partir duquel Israël ne peut plus soutenir une relation immédiate et intuitive à Dieu. C'est cette rupture que le Sfat Emet désigne comme une chute, non pas une déchéance morale, mais le passage d'un état quasi-angélique à une condition humaine ordinaire, qui rend désormais nécessaire la médiation de la loi, de l'enseignement et des cadres rituels. Nadav et Aviou apparaissent alors comme des figures anachroniques. Ils se maintiennent à ce premier niveau, celui de l'accord immédiat avec la volonté divine, comme si la rupture n'avait pas eu lieu. Les motifs traditionnellement perçus comme empreints de négativité prennent alors un sens nouveau. Leurs propos sur les vieillards qu'ils souhaitent remplacer ne relèvent pas d'une arrogance politique, mais du refus d'une médiation devenue indispensable après la chute. Leur initiative, prise sans qu'ait été reçue un ordre explicite, n'est pas une insubordination, mais l'expression d'un rapport immédiat à Dieu, possible à un niveau où l'homme est en symbiose avec le divin, mais invivable pour une communauté aux prises avec l'historicité. Ce faisceau d'enseignement dessine ainsi une logique cohérente. Nadav et Aviou incarnent une vérité fondamentale. L'élan de l'homme vers Dieu, le don de soi, sont constitutifs de toute relation vivante au divin. Mais cette intensité ne peut devenir norme collective sans se transformer en incendie. Elle doit être traduite, ritualisée. La mort des deux frères fonctionne alors comme un sacrifice fondateur. En se consumant, ils rendent possible une avoda durable, accessible à tous, tout en laissant subsister à la racine du culte la mémoire d'un appel extatique vers Dieu. C'est précisément dans cette tension entre intensité originaire et ritualisation nécessaire que cette pensée chassidique, elle-même à la recherche d'une intensité mise à mal par l'effet forcément sclérosant de la ritualisation et de la codification, relie l'épisode, non comme un échec, mais comme une condition de possibilité du service divin dans l'histoire. Il ne pouvait que se retrouver dans le geste de Nadav et Aviou, ces penseurs qui travaillèrent à la recherche, au sein d'une temporalité strictement cadrée par l'application forcément répétitive et formelle des commandements, de bulles d'intensité au sein desquelles il était possible de retrouver la brûlure du lien direct avec le divin. Ce n'est pas un hasard si la plupart des propos que j'ai rapportés ici ont été prononcés à l'intérieur de l'une de ces bulles d'intensité et de transcendance créées par la Chassidoute, à savoir la Seouda Shlichit, le troisième repas du Shabbat. Non seulement le Shabbat est l'apogée de la semaine, le moment au cours duquel, s'extrayant de la routine et de la continuité des jours profanes, l'homme peut se reconnecter à son Créateur, mais les Chassidim, au sein de cet apogée, ont choisi le dernier repas pour l'investir d'une intensité paroxystique, qui en fait un moment absolument unique de réunion entre l'âme et son Créateur. Moment qui, se situant juste avant la sortie du Shabbat, continuera d'infuser, spectralement, en filigrane, le quotidien de la semaine à venir. Comme l'offrande de Nadav et Aviou sera là, à l'arrière-plan de chaque sacrifice offert par un prêtre, à la racine de chaque mitzvah accompli par un juif. J'aimerais pour conclure remercier Yoël, mon époux, qui m'a entraîné sur ces terres de découverte et d'enthousiasme. Ce sont nos échanges autour de ces propos qui ont donné lieu à la réflexion que vous venez d'entendre.